France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous, vraiment ravi de vous retrouver à nouveau en direct du Carreau du Temple pour un nouveau concert 42e rue. Les théâtres sont peut-être fermés, mais les artistes, les auteurs, les créateurs continuent de travailler, parfois répètent et anticipent une réouverture qui aura forcément lieu. Alors on est ravis à France Musique et sur la 42e rue de soutenir les artistes et de continuer à pouvoir les recevoir en concert. Alors évidemment l'émission se déroule sans public, en direct du Carreau du Temple, mais vous pouvez la regarder en allant sur la chaîne YouTube de France Musique ou tout simplement sur la page Facebook de 42e rue. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir deux troupes de comédie musicale qui verront le jour, normalement, et on l'espère bien, en 2021. Tout à l'heure, Pierre Guillouin nous fera entrer dans le monde de la première comédie musicale de science-fiction qu'il a écrite, Mars 2037, sur une musique de Nicolas Duclos. Et pour débuter, Samuel Senet nous présente Contre-temps, une conférence musicale, on va dire, qui semble réparer une injustice, raconter la vie d'un compositeur, François Courdeau, chef d'orchestre d'opérette, qui voulait devenir un compositeur à Broadway. Sur scène, ils sont donc trois, Marion Préité, Marion Ribacka, les conférencières, accompagnées par le pianiste et compositeur Raphaël Bancou. Voici un premier extrait de ce spectacle. Alors, François Courdeau fut le chef d'orchestre de grandes opérettes françaises dans les années 40, et notamment de Florestan Ier, prince de Monaco, signé Albert Wilmette pour les paroles, Sacha Guitry pour le livret, et puis Werner Richard Heymann pour la musique. Voici Marion Ribacka, Marion Préité et Raphaël Bancou au piano sur la 42e rue de France Musique.
Que ce serait charmant sur terre, un pays où les gens ne viendraient que par plaisir, pour se distraire, où dans ce but tout serait fait. Et combien ça serait sympathique, un pays où l'on ne s'occuperait ni d'affaires ni de politique, où sans arrêt l'on se reposerait. Et vraiment quelle joie souveraine quand on est prince de Monaco, de pouvoir dire à tous ceux qui viennent de Londres ou bien de Chicago: amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. Car l'on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Pour que les gens voient tout en rose ou tout en bleu à Monaco, la première chose qui s'impose, c'est de supprimer tous les impôts. Et car dans la comédie humaine, où tous les rôles ont leur raison, il n'en est qu'un seul qui me gêne, oui c'est le rôle des contributions. Pour un roi, quelle joie adorable, quelle charmante innovation, de pouvoir à tous ses contribuables envoyer cette sommation. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme des fous, la vie est si courte après tout. Pour que la vie soit toujours belle, alors que j'aimerais un quotidien qui n'annoncerait que de bonnes nouvelles, qui vous dirait que tout va bien. Pour nous montrer que les avantages, au lieu d'apprendre les décès, on apprendrait les héritages, c'est la même chose et c'est plus gai. Pour remplacer les journaux tristes, que ce serait consolateur de lancer un journal optimiste qui dirait à tous ses lecteurs: amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme des fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici-bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez-vous, prenez la vie par le bon bout.
Marion Ribacka. Voilà, il y a un peu de public dans la salle qui sont les artistes qui vont tout à l'heure de mars 2037 présenter leur nouvelle œuvre. Bonjour Samuel Sonnet, venez à côté de moi. Et bonjour Éric Chantelose, venez également à côté de moi. Samuel Sonnet, vous êtes l'auteur de cette comédie musicale, on va dire ça comme ça, Contre-temps, et vous êtes d'un éclectisme incroyable, agrégé de mathématiques de Normale Sup.
Oui.
Chef d'orchestre,
oui.
Metteur en scène. Juste après le confinement, vous avez créé une expérience théâtrale distanciée. C'était incroyable. Une pièce de théâtre à deux acteurs. Les théâtres étaient fermés, les acteurs jouaient dans la rue. C'est ça. Ça s'appelait Contact et vous l'avez même exporté.
Exactement. Bah pour le coup, c'était avec Eric. Maintenant, on est compères depuis plusieurs années et l'objectif était de pouvoir ouvrir tout de suite avant que les théâtres puissent rouvrir au mois de juin, offrir du théâtre dans la rue, mais de manière complètement Covid compatible. Ça a joué tout l'été à Paris et là, ça fait le tour du monde. Je pense qu'on est peut-être parmi les seuls artistes internationaux à faire une tournée en période de pandémie. Et là, c'est une cinquantaine de comédiens à travers le monde qui présentent ce spectacle dans toutes les langues. C'est une belle aventure.
Alors la question, évidemment, c'est contre-temps. C'est né pendant le confinement aussi. Vous êtes tellement en train de travailler tout le temps avec Éric Chantelose?
Non, c'est né avant, c'est né pendant Avignon 2019, à l'époque où il y avait encore Avignon dans des conditions complètement normales. Et en fait, c'est Marion Ribacka, que vous avez entendu chanter, qui est venue me voir en me disant « Mais regarde, j'ai découvert la vie de ce gars, de François Courdeau. » Parce qu'on parle des compositeurs et des auteurs de comédies musicales, on parle très peu des metteurs en scène, un peu, et encore moins des chefs d'orchestre. Et elle m'a dit « Regarde, ce François Courdeau est incroyable, il vient de la musique classique, il est allé vers le jazz, vers le pop. Ça lui avait fait penser à moi. Et elle m'a dit, on pourrait faire quelque chose sur la vie de ce gars qui était enfermé dans des petites boîtes. On lui a toujours dit qu'il était un chef d'orchestre d'opérette, alors que lui, il voulait faire un peu tout. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à raconter sur ce compositeur, chef d'orchestre.
Alors, Éric Chantelose, vous êtes le librettiste.
Ouais,
c'est pas la première fois que vous travaillez avec Samuel Sonnet. On vous doit notamment une très belle comédie musicale au théâtre de la Huchette qui s'appelait Comédien. Et auparavant également avec le compositeur Didier Bailly, La Poupée Sanglante.
Ouais.
À partir de là, on écrit quoi? Comment on travaille? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce spectacle?
Alors, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de travailler avec Samuel Sonnet. Voilà. Et donc, quand il est venu.
Parce qu'il est agrégé de mathématiques.
Parce qu'il est agrégé de mathématiques, voilà. Non, c'est parce que j'aime beaucoup écrire. Je suis comédien, mais j'écris aussi. Et c'est plus simple d'écrire à deux. Et c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui on aime écrire. Et on s'entend particulièrement bien avec Samuel. Donc, de toute façon, chaque fois qu'il me propose quelque chose, je suis d'emblée partant. Et là, quand il est arrivé avec ce projet, ça m'a intéressé parce que c'était. Faire un biopic de quelqu'un qui n'est pas connu, ça c'était intéressant, parce qu'en général les biopics sont toujours sur des gens dont on connaît déjà l'histoire. Là c'était aller chercher quelqu'un qui n'est pas connu et faire une sorte de biographie en creux.
Et pourquoi la faire sous forme de conférence musicale?
Parce que ce qui nous intéressait c'est d'avoir deux conférencières chanteuses,
ouais,
qui pouvaient rendre hommage à tout ce que François Courdeau a pu traverser, parce qu'il traverse... Il est né en 19 et donc il en a vu et connu des courants musicaux et des gens célèbres. Donc ça nous intéressait. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de faire une biographie en creux, à savoir qu'il n'est jamais présent. Ça, c'était intéressant.
Sauf au début, on entend une archive.
Exactement.
On va écouter un deuxième extrait. Alors, on va demander à Marion Ribacka de nous rejoindre. On va écouter une mélodie composée par François Courdeau pour le prix de Rome de 1939. Marion Ribacka, soprano lyrique, pianiste, diplômée du Conservatoire régional d'Aix-en-Provence, mais qui est autant à l'aise dans le jazz que dans le swing, accompagnée au piano par Raphaël Bancou, en direct sur la 42e de France Musique et sur la chaîne YouTube de France Musique.
Thank you.
Ça s'intitule Noce. C'est composé par ce compositeur que nous fait découvrir Samuel Senet et Éric Chantelose, que nous font découvrir Samuel Senet et Éric Chantelose dans cette comédie musicale Contretemps, qu'on pourra voir très bientôt dans les salles, et qui est donc une conférence musicale sur ce compositeur méconnu. On a dit qu'il a commencé en dirigeant musicalement des opérettes. Il a continué à écrire lui-même ses propres compositions, ses propres chansons, souvent avec l'aide de Nadia Boulanger, cette grande, évidemment, professeure française. Et il se trouve que François Courdeau, c'est ce qu'on apprend dans ce spectacle, partira à Broadway. Et on peut dire, mais on va l'entendre peut-être en musique tout de suite, qu'il importe aussi un peu quelques mélodies françaises. Marion Ribacka, Marion Préité l'a rejoint, c'est la deuxième conférencière, auteure, comédienne, formée à l'art lyrique, on a eu le plaisir de recevoir déjà dans 42e rue. Elle était dans Comédien et dans Les Aventures de Tom Sawyer. Marion Ribacka, elle, incarnera, vous allez l'entendre, à la fois Nadia Boulanger et puis l'une des deux petites amies de François Courdeau. Car voilà, c'est un homme qui a une vie assez compliquée. Au piano, Raphaël Boncourt, en direct sur France Musique.
Début mai 1945, François Courdeau dirige une version des Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach dans une version anglaise.
Lovely night, oh tender night, the spell is calm and holy. Shadows dancing come and go, oh tender lovely night. Gently floats my boat afar, my heart with joy.
Je suis fière de vous. Enfin, enfin vous voilà au bon endroit. C'est tellement délicat et puissant. Oh, on sent que vous avez totalement compris cette œuvre. Oh, vous allez faire de grandes choses, François. Un avenir radieux vous attend en France. L'armistice est signé. Rentrons demain.
Mais cette nuit-là, François préfère rejoindre Muriel dans son lit.
Flying
ne peut s'empêcher d'entendre la voix de Nadia.
Non, François, vous allez cacher votre vie, votre talent. Moralement, vous n'en avez pas le droit. La musique ne sert pas à raconter des histoires. Des histoires, il y en a plein les rues, plein les bouges que vous fréquentez.
Lovely night, oh tender night, the spell is calm and holy.
De plus en plus sourd le souvenir des cris de Nadia.
Non, François, non, la musique se suffit à elle-même. Vous en êtes un serviteur, c'est tout. Doux et certes, mais n'essayez pas de vous raconter de passer au-dessus d'elle avec vos idées.
La noche, noche de amor, tu senta música, me encanta. Sombras bailan, vienen con tu sonrisa, oh bella noche de amor.
De Muriel efface les mots de Nadia qui, seule dans son appartement de la 3e avenue, prépare sa valise en pleurant. Et les sirènes dans la nuit rappellent à Nadia que le monde que François a choisi est violent et chaotique, qu'il n'a pas fait le choix de l'ordre et de l'harmonie. Les phrases de François résonnent dans sa tête. Vous êtes une femme du passé. Ma vie est ici, dans ce pays jeune, entouré de gens neufs. Nous ne nous reverrons plus, Nadia, parce que nous n'avons plus rien à nous dire. Et dans la nuit new-yorkaise, dans cette chambre surchauffée, il ne restera bientôt plus rien de Mademoiselle Boulanger.
Breezes as we play.
Love is all of the way.
l'extrait de Contretemps, cette comédie musicale signée Samuel Sonnet et Éric Chantelos, avec quelqu'un de très important dans cette œuvre. Venez, Samuel Sonnet, rejoignez-moi. C'est Samuel Bancou, Raphaël Bancou, je vais mélanger les noms. Bonjour Raphaël Bancou.
Bonjour.
Alors en fait, cette œuvre qui est très mystérieuse, donc qu'on peut découvrir aujourd'hui sur France Musique en direct, j'ai l'impression aussi qu'elle résonne de façon contemporaine. Par exemple, vous vous moquez un peu dans cette pièce. Vous êtes aussi un peu musicologue. Vous êtes un peu le troisième conférencier qui analyse la musique de François Cordeau.
Oui, je fais quelques interruptions pour analyser la musique parce que comme personne ne le connaît, du coup, voilà. Et ouais, ça m'amuse beaucoup, en fait.
Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes un bout en train, Raphaël Bancou. On vous connaît parce que... Alors, vous aussi, vous êtes très éclectique, compositeur, prix d'harmonie et d'harmonie du XXe siècle au CNSM, compositeur de musique de documentaire, de pièces de théâtre, de comédie musicale. Et on vous doit aussi la musique de Couscous sur la 42e rue, la première commande 42e rue. France Musique et sa CD, il y a 2 ans, pour notre grande soirée. En l'occurrence, le travail, ça consistait en quoi, dans cette œuvre?
Sur François Cordeau, déjà, analyser un peu sa musique, parce que c'est quelqu'un qui est très éclectique, lui aussi, en fait, parce qu'il va vraiment de l'opérette, effectivement, œuvre de jeunesse. Après, il y a ce prix de Rome qui a encore influencé des écoles, mais moi que j'aime beaucoup, voilà, donc Ravel, Fauré, et déjà un talent mélodique vers le public. Et après, peu à peu, il évolue à cause de l'influence peut-être des États-Unis. Vers le jazz, un jazz un peu contemporain, vers une espèce de quasiment du Berg, et après rien à voir, il fait de la pop. Voilà, c'est vraiment c'est un caméléon en fait.
Mais c'est presque une réflexion sur en fait le théâtre musical, Samuel Sonnet, cette œuvre que vous nous proposez.
Oui, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que, en effet, c'est pas juste raconter la vie de quelqu'un, même s'il est passionnant, et raconter sa vie privée, ses déboires professionnels. C'est aussi poser la question qui est celle de François Cordeau, mais qui est celle qui nous anime depuis qu'on travaille, parce qu'on travaille beaucoup tous les trois ensemble. C'est est-ce qu'on peut faire concilier un théâtre dit intellectuel dans le sens de créer de la pensée et aussi un théâtre de divertissement. La comédie musicale en France souffre énormément de cette image de paillettes, de revues, de simples divertissements faciles. Or, on défend, et moi depuis maintenant 20 ans que je fais du théâtre musical, je défends un théâtre qui n'est pas juste du divertissement facile, mais aussi avec un engagement qui peut être social, qui peut être politique, ou juste un engagement de réfléchir. C'est du théâtre. Et ce personnage de François Cordeau, c'est exactement son combat de chaque instant. Il voulait aller à Broadway pour faire du théâtre d'histoire, et on le cantonnait à de l'opérette qu'il pensait frivole. Et à la fin, le public se posera la question lui-même, qu'en voyant notre spectacle, en tout cas j'espère, est-ce que j'ai envie de voir du théâtre juste de divertissement? Est-ce que j'ai envie de voir du théâtre pour réfléchir? Est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? On ne donne pas de réponse, mais on y fait réfléchir.
Mais vous avez votre réponse.
Moi, j'ai ma réponse que je pense vraiment que les deux peuvent coexister. Enfin, je spoil la fin, en fait. Enfin, ma propre fin.
Alors, on ne va pas vous spoiler toute l'histoire, mais par contre, on parlait un peu de Alban Berg. Je vous laisse retourner au piano, Raphaël Bancou. Voici un dernier extrait de ce spectacle qui s'intitule Contretemps. Vous l'avez un petit peu dit, Samuel Sonnet, François Cordeau est de moins en moins compris. Mais à Broadway, il va diriger des opérettes. Vous allez reconnaître notamment La Veuve Joyeuse, La Route Fleurie de Francis Lopez, Violettes Impériales de Vincent Scotto, La Vie Parisienne de Jacques Offenbach, et puis une œuvre qu'il va composer lui-même. Voici Marion Préité, Marion Ribacca, et au piano, et même conférencier, on peut le dire, Raphaël Bancou, en direct sur France Musique.
François commence à travestir les partitions des œuvres qu'il dirige, à y insérer des rythmes modernes, voire à changer les mélodies des grands classiques. Plus ou moins consciemment, il décide, comme un enfant qui teste la patience des adultes, de voir jusqu'où il peut aller.
Oui, alors on n'a trouvé aucune partition, ni trace enregistrée de ces sabotages. Du coup, c'est moi qui sabote, donc je me suis amusé à reconstruire les partitions d'après les échos qu'on a recueillis, alors des articles de presse, des témoignages, des extrapolations aussi.
Alors par exemple, en septembre 1960, à Philadelphie, le Inquirer publie « The Merry Widow is not merry anymore », la veuve joyeuse n'est plus si joyeuse. François Cordeau bafoue l'œuvre de Franz Lehár.
exquise qui nous grise lentement. La caresse, la promesse du moment.
Washington, janvier 1961. Le Washington Post, titre « Incompréhension ». Nous avions adoré le chanteur de Mexico, mais cette route fleurie détonne. Est-ce Francis Lopez qui patauge dans la musique vulgaire ou le chef d'orchestre François Courdeau qui n'a plus aucun respect pour les auteurs de son pays ? Prenons la route fleurie qui conduit vers le bonheur, suivons-la toute la vie, main dans la main, cœur contre cœur. Le chorégraphe Robert Dunn raconte en détail dans sa biographie l'enfer qu'il a vécu sur la production des Trois Valses d'Oscar Strauss à Boston en mars 1962.
Je t'aime quand même et prise, conquise, soumise, je viens à toi dès que je vois tes yeux.
François Courdeau persiste dans ses sabotages. Il est blacklisté d'est en ouest. Les concerts se font de plus en plus rares, les coups de fil également. New York, avril 1963. Violettes impériales de Vincent Scotto.
L'amour est un bouquet de violettes, violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes, fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signer sa, il faut lui prendre la main sans attendre demain. L'amour est un bouquet de violettes. Ce soir, cueillons, cueillons ses fleurettes. Car au fond de mon âme, il n'est qu'une femme. C'est toi qui seras toujours mon seul.
Diriger un orchestre à Broadway. Oui, mais ce que le New York City Center lui propose, c'est la vie parisienne d'Offenbach et c'est un véritable scandale. Les gens sont outrés.
Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère, Paris, je te reviens encore. Deux fois, je suis venu déjà. J'avais de l'or dans ma valise, des diamants à ma chemise. Combien tout cela, le temps d'avoir 200 amis et d'aimer 4 ou 5 maîtresses, 6 mois de gala et d'ivresse, et plus rien à Paris, Paris. En 6 mois tu m'as tout raflé, et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre et mélancolique, délicatement emballée. Mais je brûlais.
S'arrête après 7 représentations. On se demande s'il n'y prend pas du plaisir.
À scandaliser les gens ? Oui, c'est sûr, oui.
Comme s'il prenait goût à son malheur.
Les finances sont en chute libre. François sombre dans la dépression et la drogue.
Dans ses partitions de culte de l'époque, c'est un véritable maelstrom où tournent ses concepts obsessionnels. La révolution, l'engagement, la politique. En jaillit une musique intellectuelle, concrète, qui laisse tout le monde perplexe. Même nous.
Ah donc, après trois hivers,
trois hivers sans que...
Donc, appauvri la terre,
la terre en cendres et d'eau,
par le froid morcelé.
Et de blanc.
Ça s'appelle Cold. Oui, on peut applaudir Marion Préité. Et Marion Ribacka, je dis ça au public qui est là, qui sont les artistes qui vont dans un instant monter sur scène pour mars 2037. Merci beaucoup, Samuel Senet. Vous connaissez Pierre Guillois ?
De réputation, et on vient de se voir en coulisses pour de vrai et dire qu'on aimait notre travail, donc c'est bien.
Pierre Guillois, c'est vous qui avez créé Mars 2037, on va découvrir dans un instant ce spectacle, mais vous avez envie de découvrir la vie de ce François Courdeau ? Oh là, il y a du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Allez-y Pierre. Vous avez envie de découvrir la vie de ce François Courdeau ?
Mais absolument, on va découvrir ça, on ne sait pas quand, mais... Avec plaisir.
Oui, c'est une bonne question, Samuel. Quand est-ce qu'on pourra voir cette pièce qui devait ouvrir le 4 février au studio Héberto ?
Exactement. Elle devait ouvrir le 4 février. Officiellement, il n'est pas encore dit qu'elle n'ouvrira pas, mais bon. Mais en tout cas, on travaille comme si on ouvrait le 4 février. On a la chance d'être soutenu tant par la production que par le théâtre. Donc en fait, dès que les théâtres peuvent rouvrir, on est là au studio Héberto. Donc dès que les théâtres rouvrent, venez nous applaudir au studio Héberto.
Et on espère que vous serez aussi au Festival Off d'Avignon comme c'était prévu, mais bon, on ne sait pas non plus. Merci beaucoup Samuel Senet.
Merci.
Et toutes vos autres troupes de contre-temps.
Merci beaucoup.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Et ravi effectivement de vous recevoir aussi Pierre Guillois. Alors vous aussi, vous êtes éclectique. Hein. Comment je vous présenterai ? Corrosif, caustique, engagé ? Vous aussi, vous aimez brouiller les cartes. Je me demande si vous n'êtes pas un autre François Courdeau, d'une certaine façon. En tout cas, vous êtes en faveur d'un théâtre populaire qui réfléchisse à son côté populaire. Vous avez assisté Jean-Michel Ribes. Vous avez fait travailler des amateurs. C'était à l'Atelier du Rhin, à Colmar. Vous avez dirigé le Théâtre du Peuple à Bussan, hein, avec une volonté vraiment de ne pas faire du théâtre de consommation. Vous y avez créé une œuvre très baroque, que j'ai adoré, qu'on a pu voir au Théâtre du Rond-Point, qui s'appelait « Le Gros, la Vache et le Ménat » du Théâtre musical avec Bernard Ménez. Et vous avez aussi reçu un Molière pour Bigre, une farce à la façon de Laurel et Hardy ou de Jacques Tati, je ne sais pas très bien comment présenter ça. Et enfin, vous avez poussé le bouchon très loin en créant Opéra Porno, comme son nom l'indique. Alors votre nouvelle création qui a été présentée au Théâtre du Rond-Point et qui a tourné tout en France, est-ce qu'on peut dire que mars 2037, c'est la première comédie musicale de science-fiction ?
Je pense. Il faudrait vérifier. Il y a sûrement des... Avec Nicolas Duclos, on a essayé de chercher ce qu'il y avait eu avant. En comédie musicale de science-fiction, on n'a pas trouvé. Donc peut-être qu'on est précurseur.
Et alors, l'idée, elle est venue comment ? Moi, j'avais l'impression que c'était une sorte d'odyssée de l'espace en comédie musicale que vous avez fait.
C'est vraiment l'idée de Nicolas Duclos, que je salue parce qu'il ne peut pas être avec nous.
Le compositeur.
Voilà, le compositeur avec lequel nous avions fait donc Opéra Porno. Et c'est lui qui rêvait de faire une comédie musicale spatiale sur Mars. Et c'est comme ça, vraiment, c'est son idée. Et puis, comme on avait adoré travailler ensemble sur Opéra Porno, on a continué là dans un registre opposé, puisque un spectacle familial, donc tout à l'inverse de l'Opéra Porno.
Vous êtes inspiré de quoi pour écrire ? Vous avez écrit le livret, vous avez écrit les paroles et vous avez créé une mise en scène absolument somptueuse avec des appareils où on croit vraiment que les gens sont en lévitation. Je ne sais pas comment vous avez fait ça et quelle est la complexité de monter un tel spectacle. Quelle idée ? Qu'est-ce que ça raconte mars 2037 ?
Je suis vraiment parti de l'actualité en fait, de se dire mars c'est demain. Elon Musk de SpaceX, donc celui qui est un des hommes les plus riches du monde, a dit qu'il irait sur Mars, quoi qu'il arrive. Et en fait, je me suis inspiré de cette histoire pour dire que c'est une histoire privée. C'est quelqu'un en effet très riche qui va dire, moi je vais mettre toute ma thune là-dessus et je vais aller sur Mars. Parce que les États, ils vont pas y aller tout de suite, c'est trop compliqué. Donc c'est quelqu'un comme ça qui va pouvoir le faire. Et en effet, c'est ce qu'on va vérifier, je pense, ces prochaines années. Donc, c'est pour ça que j'ai placé ça en 2037. C'est ce qui peut se passer, hein, scientifiquement parlant. Et donc, après, j'ai évidemment dessiné des personnages, mis du relief là-dedans pour qu'on parte dans une aventure avec pleine de fantaisie. Mais c'est vraiment parti d'une réalité, dans une plausibilité technique.
Alors, il y a des scènes de ménage, il y a des problèmes familiaux. Il y a des choses très, très humaines dans cette aventure spatiale, quand même.
Oui, c'est toujours ce qui nous fascine avec l'espace, avec l'aventure spatiale, c'est qu'on devient plus humain peut-être, plus on se détache de la Terre. C'est ce petit vaisseau qui part avec quatre personnes, ils n'en deviennent que plus humains avec tous les problèmes qu'ils ont emportés avec eux, en fait. Il y en a une qui est enceinte, il y a l'autre qui s'est fâché à mort avec sa fille, etc. Et donc, ils trimballent avec eux toutes ces histoires humaines dans cet infini, en fait.
Et en termes de mise en scène et de décor, vous vous êtes permis tout ?
Alors, c'est Audrey Wong qui a fait le décor. Et avec elle, on s'est tout d'un coup dit que ces voyages, ils allaient se faire en apesanteur, en microgravité, comme on dit, comme il se passe dans la station internationale actuellement, parce que ce sont des voyages assez courts, de 6 mois. Donc, on va pas créer de la gravité. Donc, à partir du moment où on s'est dit ça, on s'est dit, il faut absolument mettre ces chanteurs en apesanteur d'une façon ou d'une autre. Donc, on a mis en route toute une machinerie énorme, en effet, pour que tout ce voyage se fasse en apesanteur.
On va découvrir un premier extrait de mars 2037.
Sur Terre, là.
Qui est tout à fait sur Terre. On est au début du spectacle. Alors, vous parliez d'Elon Musk. Votre milliardaire s'appelle Pablo de Falla. Il dépense toute sa fortune, on peut dire ça comme ça, pour réaliser ce rêve de partir sur Mars. Mais voilà, sur Terre, il y a sa fille qui n'est pas très contente que le papa jette tout son argent par la fenêtre. Une fille qui s'appelle Vénus. Et cette chanson s'intitule « Irruption de Vénus ». C'est Charlotte Marquard qui incarne Vénus dans mars 2037. Jean-Michel Fournereau, Pablo de Falla. Alors la pièce sera créée avec un ensemble musical. Mais aujourd'hui, les acteurs sont accompagnés au piano par Gabriel Godard. 42e rue, c'est à écouter en direct sur France Musique. Mais vous pouvez également nous regarder sur la page Facebook de 42e rue et sur la chaîne YouTube de France Musique.
On arrête tout, papa. Les médecins vont t'emmener passer des examens à la clinique psychiatrique.
Vénus,
tu ne pars plus.
Je ne pars plus.
Tu ne pars plus. Fini les fusées, fini les missions. La justice m'a donné raison.
Vénus, non.
Messieurs, mesdames, le cerveau de mon des soucis de vieillerie. Mars, toujours Mars,
toujours.
Ça abîme la tuyauterie, cette lubie de grabataire. Il faut vérifier au scanner l'état de ses synapses.
Mon cerveau va très bien, 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 mon cerveau.
C'est bien triste, messieurs, dames, de voir vieillir son vieux papa. C'est un naufrage, dit-on. Oui, oui, dommage, surtout quand ce vieux fricou dilapide va très vite.
Mon cerveau va très bien. C'est pour mon fric tout ça, là là. Vénus, ma chérie, ne sois pas cupide.
Je ne suis pas stupide.
J'ai dit cupide.
Je ne suis pas stupide. Je ne suis pas stupide. Je ne suis pas stupide.
N'oublie pas, ma fille, je t'ai laissé au Bahamas. Une île rien que pour toi.
Une île, tu te fous de moi. Ce rocher, cet îlot. Une aumône de pas côté.
Ma fille.
Du sucre, les fraises, papa. Pas question que ma fortune s'envole sur Neptune.
Mars, Vénus.
Mars ou Neptune.
Mars.
Fortaise, qu'importe la planète.
Mars.
Ce qui cloche, c'est ta tête.
Espèce d'ingrate, si indigne.
Ton cœur, papa, pense à ton cœur. Un calmant pour papa. La piqûre, oui, piquez-le.
À 80 balais, c'est pas ma fille qui va me dire comment claquer le fric que j'ai mis tant d'années à gagner.
C'est ce qu'on va voir. Emmenez ce vieil imbécile.
Maudite bougresse, tu me le paieras.
Ça s'intitule « Éruption de Vénus », premier tableau au début de mars 2037. Cette comédie musicale signée Nicolas Duclous et Pierre Guillois, qui n'a toujours pas été présenté au grand public, puisque je crois que ça devait ouvrir au Havre et puis ensuite à Brest, et évidemment avec tous ces problèmes de fermeture de théâtre et de couvre-feu, ça a été remis un petit peu plus tard. En tout cas, il y a toute une tournée qui est prévue. Alors, nous ne sommes toujours pas partis sur Mars. Voici un deuxième extrait de cette pièce de théâtre musicale. Mais les trois cosmonautes retenus se préparent. Il y a un homme qui s'appelle Pavel et deux femmes. on va découvrir ces deux femmes astronautes. L'une est interprétée par Élodie Pont et l'autre par Marie Hopper, alors qu'on a le plaisir de recevoir à nouveau sur la 42e de France Musique et que vous pourrez entendre demain à 20h sur France Musique, puisque Marie a été nommée parmi les révélations féminines des victoires de la musique classique. Et demain soir, Clément Rochefort présentera à 20h en direct. Non, ça ne sera pas en direct, ça a été enregistré à la salle Gaveau, mais demain soir, Clément Rochefort vous présentera ce concert des révélations de la musique classique. Mais pour l'heure, Élodie Pont et Marie Hopper en cosmonaute, c'est en direct sur la 42e rue de France Musique.
Tu ne peux pas décoller dans cet état, Lisa.
Ah oui, et pourquoi pas?
Tu le sais très bien. Aucune femme enceinte n'a jamais décollé en fusée.
Eh ben, je serai la première et puis c'est tout.
Je suis désolée, Lisa. Tu dois choisir. Si tu veux garder l'enfant, tu dois rester sur Terre.
Si près du décollage, tu plaisantes?
Tu dois choisir, Lisa.
C'est immonde!
Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Mars ou l'enfant?
C'est bon, j'ai décidé. Je garde mon enfant.
Ok.
Et je vais sur Mars.
Lisa!
Et tu m'aides à trafiquer mes analyses sanguines.
Mais Lisa, ce n'est pas possible!
Quoi, pas possible?
Parce que je suis médecin, j'ai une déontologie.
Quoi?
C'est la loi, Lisa!
La loi, mais quelle loi?
Fais pas l'idiote.
Les lois d'ici, les lois terrestres, elles ne nous concernent plus. Hélène en a trop donné pour aller là-haut.
Il y a des règles, Lisa.
Non, Hélène, non, non, je n'obéirai pas. La Terre, ses lois, ce ne sont plus les miennes. Citoyenne de l'espace, j'obéis aux lois de Mars.
Elle n'existe pas encore, Lisa, pas encore.
J'ai tout donné pour gagner ce ticket.
Je sais, mais tu connaissais les règles et c'est comme
ça. Je suis plus d'ici, je suis déjà partie. Je suis martienne et je vomis vos lois. J'embarque mon gamin, que ça plaise ou pas aux lois des terriens.
Sois raisonnable, Lisa, sois raisonnable.
Raison, raison, il n'y en avait pas. Quand on plongeait dans les eaux de l'Arctique, quand on grimpait les pics de l'Annapurna. On était martiennes, Hélène, la Terre n'est plus notre problème. Ce petit clandestin verra le jour sur Mars. On est déjà des martiennes, la Terre n'est plus notre problème. Ce petit clandestin verra le jour. Du désert de Gobi où j'ai frôlé la mort. Cette soif ne s'étanchera pas. J'ai surpassé toutes mes limites. J'ai sa personne, ma place dans le cockpit. Et je garde mon gamin figé. On est déjà des martiennes. La Terre n'est plus notre problème. Ce petit clandestin verra le jour. Sur Mars, on est déjà des martiennes. La Terre n'est plus notre problème. Ce petit clandestin verra le jour. Sur Mars. Hélène, tu m'aides?
Le passager clandestin. Deuxième extrait de cette comédie musicale signée Pierre Guigouet et Nicolas Duclou, mars 2037. Maintenant, on va enfin monter dans la navette spatiale, dans le vaisseau spatial. On se retrouve à flotter en apesanteur. Racontez-nous un petit peu, c'est un moment particulier là. On va se demander effectivement comment on fait pour cuisiner lorsqu'on est dans une navette spatiale. Ça ressemble à quoi le décor ?
Alors le décor, en fait, on a un bout du tube qui est le vaisseau. Hein. Ce sont des cylindres, des gros cylindres. Donc on est dans un morceau de ce vaisseau. Il y a des écoutilles qui permettent aux astronautes d'arriver dans ce tube central. Hein. Et en fait, là, dans cette scène-là, c'est Élodie qui flotte à l'intérieur particulièrement. Puis les autres qui apparaissent par les écoutilles. Donc il y en a qui ont la tête en bas, etc. Personne qui est dans le bon sens, hein, puisqu'on flotte. Voilà. Et là, en fait, l'événement, c'est que notre vieux Defaya, il perd un peu la tête. Et en fait, il fait un tas d'erreurs, il débranche des prises, etc. Il fait brûler une machine qui était censée conserver les œufs féconder jusqu'à mars pour faire un élevage de poussins. Et donc, tous les œufs sont brûlés.
Les œufs, avec des comédiens qui sont bien les pieds sur terre aujourd'hui, au carreau du temple en direct. Et peut-être qu'ils vont nous raconter que ça leur change la vie d'être plutôt en lévitation, je ne sais pas. Jean-Michel Fourneau, en tout cas, Élodie Ponte, Marie Aupert, Pierre Samuel, en direct sur France Musique.
Mais qu'est-ce qu'on va manger sur Mars
si on peut plus manger des œufs?
Quel désastre, tous nos œufs!
Et les poupoules
et les poulets dont on devait se régaler, des omelettes
se concocter. Tous les œufs sont cramés.
Je l'avais mis de côté.
S'il est fêlé, c'est cuit.
Pas si sûr. Comment on va couver cet œuf? Mais comment la machine a pris feu?
Devinez,
c'est le vieux
qui a crié nos œufs.
Ça devient dangereux, il est vraiment gâteux.
Débrancher.
Ah, encore oublié.
À la fin, on va tous y passer. Faut agir.
On cadenasse sa cabine jusqu'à Mars.
Chut, le voilà.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tes mains se passent. Des secrets.
Tous les œufs sont cuits à la coque. Du coup, sur Mars, ni poule ni coque. On ne sait pas qui a cuit. Qui a causé ce court-circuit?
Le coucou, le cuit, le quoi?
Le court-circuit.
Qu'a cuit toi?
Tous les œufs à couver. Il est vraiment sénile.
C'est papa, c'est pas moi, qui est cassé. La machine a couvé.
Il bégaye, il bafouille, il tremble, très nerveux. S'il bégaye, c'est qu'il a les chocottes, le vieux.
Si vous croyez qu'un homme riche comme moi va s'enquiquiner pour quelques œufs cassés, qui a payé tout, le vaisseau, la fusée, grâce à qui êtes-vous tous ici? Si vous êtes pas con, si vous êtes pas content, vous savez ce que vous dit le vieux. Allez vous faire cuire des œufs. Et cet œuf est à moi, je le gobe si je veux.
Et c'est ainsi que des faillants
nous filent la tête pendant un mois. Et mille œufs
l'ont filé prudemment,
tout en boudant
dans un repli de son bidon.
Et se mit
comme une poule
à couver.
À couver.
À couver.
Ça s'intitule Les œufs, un troisième extrait de mars 2037, la comédie musicale de Pierre Guillois et Nicolas Duclou. Nicolas Duclou qui avait fondé notamment le trio Werther, qu'on connaît bien sur France Musique, pianiste, chef de chant notamment de la compagnie Les Brigands, dont il est l'un des fondateurs. Qu'est-ce que vous lui avez demandé, Pierre Guillois, à Nicolas Duclou?
Ah, moi, je ne lui demande rien, on travaille ensemble. Ce qu'il faut dire là, c'est qu'il y a en effet un orchestre dans le dans la comédie musicale, puisqu'il y a une harpe, il y a un violoncelle, il y a des percussions, un vibraphone, il y a un clavecin, etc. Et c'était quoi la question, ce que je lui ai demandé?
Oui, vous lui avez demandé un style. Vous lui avez dit ainsi Zarathoustra, ainsi vous vouliez du Strauss, vous vouliez
On voulait. En fait, le problème, par exemple, c'est quoi la musique du futur? On ne sait pas. Quand on veut faire du futur, en fait, on fait du passé parce que souvent, on fait de la musique électronique des années 70. Vous voyez, c'est un petit peu ça le problème. Comment vous racontez en musique le futur? Donc, Nicolas, finalement, c'était bien qu'il ait à la fois cette culture classique, il a une grosse culture pop aussi, puis il a mêlé tout ça, et puis il s'est dit, bon, on verra ce que va être la musique de l'avenir, quoi.
Alors, Pierre Guilbois, vous avez fait appel à des comédiens habitués aux comédies musicales et qu'on reçoit souvent, régulièrement, pas Jean-Michel Fourneau, mais Marie Aubert et Pierre Samuel. Bonjour, tous les trois.
Bonjour.
Vous montez dans ce vaisseau spatial, mais on peut dire que c'est presque un vaisseau spatial, Pierre Guilbois. Quelle est la méthode Guilbois? J'ai l'impression qu'il y a un sens du rythme extrêmement important lorsqu'il vous fait répéter.
La Pierre méthode n'est pas si précise que ça, hein, à vrai dire.
Non, parce que Pierre Samuel, oui.
Il est face à... Enfin, l'impression qu'on a, c'est que c'est un chantier pharaonique, ce spectacle, puisque ça aurait été bien sûr trop simple de faire une comédie musicale où on chante, on danse et on joue. C'est trop simple, oui. Non, en plus, en apesanteur, tout ça. Sinon, c'est trop facile. Donc là, il y a une contrainte technique énorme. Et on a été face à ça, en fait.
Il est très précis. Il sait très bien à l'avance que vous allez chanter la tête à l'envers ou harnacher pour faire ce semblant d'apesanteur. Ou c'est vous qui apportez des choses, Marie Aubert?
Ben oui, je pense qu'en plus, comme le spectacle avait été créé dans une première version en Autriche, il y avait déjà des idées très précises de la mécanique de toute cette apesanteur. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été tout un travail corporel très intéressant. Et c'est aussi, moi, personnellement, ce qui me plaisait énormément dans le travail de Pierre, que j'avais pu admirer dans ses autres spectacles aussi. C'est vraiment un travail très précis du corps. Et là, en plus, pour la technique du chant, il y avait toute une adaptation. Parce qu'avec ces contraintes mécaniques de l'apesanteur, la tête en bas, c'est vraiment des différents repères. Et le travail était très intéressant pour ce physique à entraîner.
Jamais vous lui avez dit, mais attendez Pierre, je ne peux pas chanter dans cette position-là?
Non, on n'a pas le choix. Hein. Il faut que ce soit crédible, il faut que l'image marche aussi.
Jean-Michel Vournereau, à un moment, quand vous montrez votre poule avec... les œufs qui ont été donc bien tous couvés et jetés. Vous m'expliquez que vous étiez un petit peu en équilibre,
c'est ça ? Vraiment
en
équilibre, oui. En fait, ce qu'il faut rajouter à tout ce qu'ont dit les camarades, c'est qu'en plus d'être chanteur acrobate, on est aussi marionnettiste, on est aussi machiniste. Enfin, il y a vraiment toute une équipe qui développe presque tous les métiers du spectacle en même temps. Et des fois, il faut synchroniser ce que fait la main gauche, qui n'est pas pareil que fait la main droite, qui n'est pas pareil que ce qu'on chante. Et donc, effectivement, dans ce que vous décriviez dans le tableau, on est tous, à l'apparition de ces écouptilles, on est accrochés par les pieds, on a tout le haut du corps qui est dans le vide et on doit tenir, on doit gainer notre corps pour chanter dans cette position-là. Quoi.
C'est les conseils que nous donne Pierre d'ailleurs en attendant. Faites du gainage.
Et en général, il nous dit, oh, je ne sais pas comment faire, débrouille-toi. Voilà.
Réponse, Pierre Guilbois, vous avez la parole. Hein.
Bah, en fait, oui, mais on fait avec les possibilités physiques. C'est-à-dire que Jean-Michel, il a terminé à un moment donné plein de bleus avec un mal au dos. Donc on a choisi, on a dit, bon, on va quand même prendre les positions qui te font le moins mal et on va voir.
Hein, et alors, ce qui est drôle aussi, c'est que Pierre m'a dit, mais t'es beaucoup trop jeune pour le rôle, mais je ne sais pas comment quelqu'un qui aurait vraiment 80 ou 85 ans ferait dans ces positions-là.
Alors voici un moment délicat pour chacun, justement, Pierre Samuel et Marie Aubert, vous êtes en apesanteur, et deux cosmonautes, on va dire, qui pourraient peut-être aussi se découvrir des sentiments l'un pour l'autre, surtout que Pavel, que vous incarnez, Pierre Samuel, est sorti du vaisseau pour une petite réparation mécanique. Mais enfin, voilà, quand on est en dehors du vaisseau, on connaît les films de science-fiction, ça peut être tout à fait dangereux. Un titre intitulé « La déclaration de Pavel, Pierre Samuel, Marie Aubert », extrait de mars 2037 au piano Gabriel Godard.
Je vais réparer le panneau. Ah, j'oubliais! Je ne sais pas si c'est le moment ou si c'est lourd ou pas, mais ce matin, je pensais à la répartition des abris sur Mars et je me disais que Lisa et Defaya seraient très bien ensemble. Comme ça, papy pourrait s'occuper du gosse et nous, de notre côté, on pourrait aménager tous les deux. Ça serait sympa, non?
Très, très lourd.
On pourrait mener une vie martienne, pépère, gentille, quoi. Et puis, tant qu'on y est, on pourrait fonder une petite famille. Comme ça, sans prise de tête.
Pavel, on se bouffe le nez sans arrêt.
Mais il n'y a pas besoin de s'aimer pour créer un foyer. Les gamins feraient du quad, tractés au cerf-volant solaire. Et nous, on ramasserait des débris de météorites pour notre collection.
Je t'écoute plus, là. La 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 la.
J'imagine notre lune de miel dans les ravines d'Élysium, Hélène. Nous ferons les oies dans les canyons de Candor, et nous nous endormirons en nous moquant des tornades dans le bassin boréal. Et nous vivrons la plus belle nuit astrale, nuit astrale. C'est pas celle qu'on t'entend.
Bah à ce stade, ça s'appelle plus un panneau, mais un râteau.
Quoi ?
Je suis le premier homme à se prendre un râteau spatial. Mais je suis un pitbull de l'amour, moi.
Je lâche jamais. Nous fonderons la première colonie
la, 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 la.
Dans les renflements de Tarsis.
La, 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 la.
Et bientôt, nos enfants joueront dans les sillons de l'Icus.
La, la, la.
Les sillons de l'Icus. Bleu dans le ciel, loin là-bas. Et eux préféreront se perdre dans les cratères du Matara. Je t'aime et
deuxième râteau spatial, je m'éclipse, si je puis dire.
Elle est très modeste, Marie Hopper. Ça a eu faire un effet très particulier de chanter les pieds sur terre, puisque je crois que ce numéro est entièrement interprété, je crois, dans cette comédie musicale Mars 2037. La tête en bas, c'est bien ça, hein, Marie Hopper.
Tout à fait.
Et on vous souhaite bonne chance aux révélations de la musique classique qui auront lieu fin février. On se quitte avec un dernier numéro extrait de cette comédie musicale, Mars 2037. Alors cette fois-ci, on est sur la planète Mars et ils sont tous là. Charlotte Marcard, Jean-Michel Fourneau, Élodie Pont, Marie Hopper, Pierre Samuel, et puis un petit dernier qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, mais qui est très important, Quentin Moriaux. On va dire quoi, c'est un peu le lâche de l'histoire, ou c'est peut-être le cupide de l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, ils sont tous les six accompagnés au piano par Gabriel Godard. Et finalement, cette pièce de théâtre, alors il y a plein de dates qui ont évidemment été pour le moment décalé, mais je crois, Pierre Guillois, qui a tout un programme de tournée en avril et mai qui aura peut-être lieu, on ne sait pas.
Oui, oui, là, on devait être à Rennes, au TNB, là, cette semaine. Donc, normalement, il y a des dates jusqu'en juin.
Mars 2037, en tout cas, c'est dès maintenant en direct sur la 42e rue de France Musique et donc sur la chaîne YouTube en vidéo de France Musique.
J'ai cru 100 fois mourir, les yeux dans les étoiles.
avait dit ici que c'est ici qu'on creuse.
Non mais n'importe quoi, on avait dit là-bas.
Oh quelle mauvaise foi, je vais chercher la foreuse.
Pas question,
tu es, je suis, vas-y, dis-le, t'écoute jamais. C'était une mauvaise idée, cet abri. La vie sans toi n'avait plus de sourire. C'était si froid, c'était bien pire que mourir. J'ai cru te voir cent fois voler dans les étoiles. Aujourd'hui tu es là, toi mon amour astral. Hélène, je t'aime Hélène. Veux-tu déjà retourner là-bas sans moi?
On est coincé par elle, tous deux condamnés.
J'étais si triste, loin de toi.
Est-ce un rêve, Miguel?
Je ne pensais pas te revoir.
La vie ici, avec toi, c'est le paradis. C'est le printemps, malgré le froid de la nuit. Ton sourire me protège de tout rayon cosmique. Car notre amour, la vie ici, avec toi c'est le paradis. C'est le printemps, malgré le froid de la nuit. Ton sourire me protège de tout rayon cosmique. Car notre amour revêt une force astronome.
Mars 2037 à découvrir très bientôt en France. Merci beaucoup à tous les artistes. Merci aussi à la troupe de Contretemps et merci à Jean-Louis Deloncle à la technique. Nadège Antonini, Sébastien Royer, Éric Carrère, Benoît Chapon, Julien Mizen, Titouan Oueg, Camille Lanier, Morgane Fougerie, David Sadoun, Charles Serres, Martine Moni, Fabien Flora, Laurent Vallière. On vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.